Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent au bilan des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina-d'Ampezzo qui se sont déroulés en février 2026. Au tableau des médailles, c'est la Norvège qui l'emporte, et de loin, avec 41 médailles, dont 18 en or, devant les États-Unis, 33 médailles, dont 12 en or, troisième les Pays-Bas, 20 médailles, dont 10 en or, quatrième l'Italie, 30 médailles, dont 10 en or, cinquième l'Allemagne, 26 médailles, dont 8 en or, sixième la France, 23 médailles, dont 8 en or. Suivent la Suède, à la septième place, 18 médailles, 8 en or, huitième la Suisse, 23 médailles, dont 6 en or, 9e l'Autriche, 18 médailles, dont 5 en or, et enfin, pour terminer ce top 10, 10e le Japon, avec 24 médailles, donc 5 en or. La France a réussi donc ses Jeux Olympiques de Milan-Cortina, grâce surtout à la moisson historique du biathlon. Le bilan cache aussi quelques déceptions, notamment en slalom, en ski de descente et en snowboard. Contrairement aux Jeux d'été 2024 à Paris, les Bleus n'ont pas réussi à terminer dans le top 5 au tableau des médailles, éjectés in extremis par le bobsleigh allemand le dimanche. Si on regarde l'historique de la France au tableau des médailles, en 2022, elle était 10e avec 5 médailles d'or, en 2018, 9e avec 5 médailles d'or, en 2014, 10e avec 4 médailles d'or, en 2010, 11e avec 3 médailles d'or, en 2006, 10e avec 3 médailles d'or et en 2002, 6e avec 4 médailles d'or. Mais l'équipe de France n'est pas passée loin. C'est son meilleur classement depuis 2002 à Salt Lake City, donc cette 6e place. Et le bilan reste très bon avant les prochains Jeux Olympiques d'hiver qui se dérouleront en 2030 dans les Alpes françaises, Nice, Briançon, Haute-Savoie et Savoie. Le biathlon et la référence superstar pour la France. 13 médailles, dont 6 titres sur les 11 en jeu. La France a annexé le biathlon dans les proportions records à Anterselva. Mention spéciale à Julia Simon, sacrée dans l'individuel, Océane Michelon, couronnée en mastart, et Quentin Fillon-Maillet, vainqueur du sprint. Quentin Fillon-Maillet est devenu au passage l'athlète français le plus médaillé de l'histoire, 9 médailles, donc 5 en or, jeux d'hiver et d'été confondus. Les autres médailles françaises, elles sont au nombre de 7, aux 7,5 km, un individuel féminin, Océane Michelon est deuxième et Jean-Loup Jean Monod troisième. Aux 20 km individuel homme, Éric Perrault est deuxième. Aux 15 km individuel femme, Loup Jean Monod est deuxième. Aux 12,5 km poursuite homme, Émilien Jacquelin est troisième. Mastart femme, 12,5 km, Julia Simon est seconde. Et en Mastart homme, 15 km, Quentin Fillon-Maillet est troisième. La France est aussi la première nation à remporter les trois relais, mixtes, masculins et féminins, lors d'une même édition des Jeux, un exploit que même la Grande Norvège n'a jamais réalisé. Au total, les biathlètes ont remporté 56% des médailles françaises, 13 sur 23, et 75% des titres attribués en biathlon. Un festival, mais aussi une biathlon-dépendance manifeste. La France devra prendre exemple sur l'Italie, titré dans 6 disciplines différentes. En danse sur glace, patinage artistique, médaille d'or pour Cizeron et Fournier-Baudry, plus fort que la pression. Ils étaient attendus et malgré une immense pression, ont su être au rendez-vous. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, canadiens naturalisés français, ont décroché l'or en danse sur glace après tout juste un an de collaboration. Le couple a réussi à triompher alors qu'il était confronté à un contexte lourd avec la sortie du livre de Papadakis accusant Guillaume Cizeron d'avoir exercé une forme d'emprise sur elle. Le ski alpinisme, nouvelle discipline, gagne 3 médailles de différentes couleurs. L'argent d'Emilia Ropp et le bronze de Thibaut Anselmette en sprint individuel. Puis l'or ensemble en relais mixte. Le ski alpinisme français en a vu de toutes les couleurs à Bormio pour les débuts de la discipline aux Jeux Olympiques. Néanmoins, le ski alpinisme n'est pas encore certain d'être retenu pour les Jeux Olympiques de 2030. Le duo tricolore, en tout cas, fait ce qu'il fallait pour défendre ce sport dont le format très court aux Jeux Olympiques a soulevé des critiques alors qu'il s'épanouit surtout sur la durée et dans la nature. Le ski de fond, les fondeurs aux premières loges, 3 médailles d'argent. Premier médaillé français de ces Jeux Olympiques, Mathis Desloges a crevé l'écran dans le Val d'Ifiem en remportant 2 médailles individuelles, à chaque fois en argent, lors du skiathlon, puis dans le 10 km. Le skieur de Villard-de-Lans, dans l'Isère, a enchaîné avec ses coéquipiers pour décrocher une 3e médaille d'argent en relais derrière la Norvège de l'intouchable Johannes Klabo, qui a remporté en tout 11 titres olympiques en 3 participations 2018, 2022 et 2026. L'Isérois Mathis Desloges, âgé de 23 ans, a néanmoins tout l'avenir devant lui. Livigno, c'était le petit Tibé des Alpes, a lui aussi apporté son écho au Trésor des Bleus, 2 médailles de bronze chèrement gagnées, Perrine Laffont au boss et le snowboard par équipe. Débarqué en novembre avec beaucoup d'ambition derrière Chloé Trespech, porte-drapeau de la délégation française avec le skieur Clément Noël, le snowboard français est reparti avec une seule médaille, le bronze en mixte de Loan Bozzolo et Léa Casta dans le cross mixte. Pour le reste, une querelle de place d'honneur sur un parcours très critiqué, car jugé plat et facile par les Bleus. Même verdict pour le ski cross, carrément bredouille, 12 ans après le triplé historique de Sochi. On signalera la grosse déception qui est venue du ski alpin. Les slalomeurs cultivaient de grands espoirs avec Clément Noël, champion olympique en titre, et Paco Rassat, la révélation de l'hiver. Mais leur aventure a viré au cauchemar lorsqu'ils ont tous les deux enfourché pour quitter Bormio par la petite porte. Comme tout le ski alpin masculin, qui n'a pas décroché une seule médaille pour la première fois depuis Vancouver en 2010, sachant que Nils Allègre est passé à 300e du podium en super géant. La consolation est venue avec des femmes, la superbe médaille d'argent de Romane Miradoli en super géant. Le déclassement du ski alpin français inquiète à 4 ans des Jeux à domicile. Milan a été donc le théâtre des épreuves de glace en Altos Intersalva, merveille du biathlon, perché aux confins de l'Autriche, en passant aussi par Bormio et sa redoutable Stelvio, piste mythique du ski alpin, ou encore Cortina d'Ampezzo, la reine des Dolomites, coiffée de son joyau, l'Olimpia della Tofane, héritée des Jeux de 1956. L'opulente région fera étalage de ses plus beaux atours, au sens propre comme au sens figuré. Plus de 400 km séparent la capitale lombarde des sites de compétition les plus éloignés. Hier, la logistique en a souffert. Aujourd'hui, spectateurs et personnes accréditées risquent fort d'en payer le prix pour se déplacer à travers les vallées et l'empreinte carbone de se creuser. Les transports représentent la principale source d'émissions dans l'organisation des grands événements sportifs. Le Comité international olympique, le CIO, se défend. Il s'agit de bâtir sur l'existant, fait valoir l'instance, qui éprouve pour la première fois son modèle de site olympique éclaté. Ce concept, propre au massif alpin, sera reproduit dans 4 ans, au cœur des Alpes françaises, avec cette fois plus de 500 km, des Aravis, au nord, en Haute-Savoie, à Nice, au sud. La facture totale des Jeux olympiques de Milan-Cortina d'Ampezzo s'élève à 5,2 milliards d'euros. Celle de l'édition 2030, prévue dans les Alpes françaises, est estimée à 3,5 milliards d'euros. Une enveloppe qui a déjà plus que triplé par rapport au dossier de candidature, 1,55 milliards d'euros, et que beaucoup en Italie jugent sous-évalué. Pour ces Jeux 2026, près de 1 million de mètres cubes d'eau ont été prélevés, dont la moitié pour le seul site de Livigno, au risque d'assécher les rivières. Les JO qui viennent de s'achever donc à Milan Cortina d'Ampezzo, n'ont pas échappé au dérapage écologique. Le sentier olympique passe entre deux abîmes parallèles, celui du réchauffement et le gouffre du déficit hydrique. Fabriquer la neige artificielle impose un prélèvement brutal de la ressource en eau. Les Alpes sont le réservoir d'eau de l'Europe. Les Jeux olympiques ont impliqué des prélèvements d'eau à grande échelle dans des réservoirs, les cours d'eau ou les nappes phréatiques, parfois comparables à la consommation annuelle de villes entières, avec des impacts sur la faune et la flore. Au-delà de 2026, toute la perspective est sombre. Selon une étude de l'Université belge de Waterloo, seules 4 des 21 villes ayant déjà accueilli les Jeux d'hiver pourront le faire dans de bonnes conditions en 2050, dans moins de 25 ans. Il s'agit de Lake Placid, Lillehammer en Norvège, Oslo et Sapporo au Japon. En 2100, seul Sapporo au Japon pourrait offrir un cadre hivernal aux Jeux olympiques et pas un décor artificiel. Selon l'étude universitaire belge, si 87 sites de l'hémisphère nord peuvent décemment organiser aujourd'hui des Jeux olympiques d'hiver, il n'y en aurait plus que 52 en 2050. Il faut que l'affaire soit sérieuse pour que le CIO, le vrai, le Comité international olympique, ait envisagé de faire tourner les Jeux olympiques d'hiver sur quelques sites seulement, disposant déjà des équipements, alors que la conquête de nouveaux marchés, donc de nouveaux pays, est un mantra olympique. Fort de l'étude précitée, le cabinet Circle Strategy surligne l'avantage d'une rotation sur 5 sites. La réduction des coûts de construction, de moins en moins tolérée, pour de meilleurs profits. Les Jeux d'hiver asiatiques, prévus en 2029 en Arabie Saoudite, dans la ville nouvelle et futuriste de Neom et à Trojena, ont été déplacés à Almaty, dans le Kazakhstan, aux premières pentes des montagnes du Tian Shan. Le changement est aussi motivé par des retards pharaoniques que de chantiers ramsséens, non par une logique environnementale. Les Jeux 2030 en France cumulent eux aussi des dossiers chauds. Si des équipements des Jeux olympiques d'Albertville 1992 sont réutilisés en bobsleigh, skeleton, tremplin, la construction de 4 villages olympiques et les sites de Nice, nouvelle patinoire, stade Allianz Arena, Allianz Riviera à transformer en patinoire de hockey, sale la note. Et l'hiver 2025-2026, pauvre en neige, fait redouter l'usage de neige artificielle en 2030. Rappelons que pour l'ensemble des événements sportifs internationaux, l'écrasante majorité des émissions des gaz à effet de serre est due au voyage des spectateurs du monde entier, puis leur déplacement entre les sites. Clin d'œil de l'histoire, les Jeux 2030 pourraient voir arriver le cyclisme et le trail, qui n'ont pas besoin de neige. Décision en juin prochain, mais de toute façon, une mutation profonde des Jeux olympiques d'hiver est inscrite de force dans le ciel. Retour sur l'histoire. Au fil du XIXe siècle, la montagne se transforme en un lieu désirable. Excursionnisme, alpinisme et thermalisme se développent. Bientôt arrive le ski. De premiers concours ont déjà lieu depuis le milieu du siècle dans les pays nordiques et en particulier en Norvège, où le pionnier Sondre Norheim, 1825-1897, vient d'inventer les skis modernes. Le plaisir de la glisse se diffuse en Europe et la greffe prend en France sous l'impulsion d'une institution inattendue, l'armée, qui crée de premiers bataillons de chasseurs alpins en 1888 pour surveiller sa frontière avec l'Italie. Le club alpin français, créé en 1874, et le Touring Club de France, créé en 1890, deviennent ses alliés pour façonner un tourisme hivernal et ainsi générer une manne annuelle pour la montagne, quitte à l'imposer à une population locale, d'abord hostile à cette dépossession territoriale. La séduction pour le sport opère dès 1907 avec le tout premier concours international de sport d'hiver à Montgenèvre, dans les Hautes-Alpes. 17 ans plus tard, la France obtient les premiers Jeux olympiques d'hiver. Puis, fin 1924, la Fédération française de ski se crée en prenant son autonomie du club alpin français. Tandis que durant l'entre-deux-guerres, l'engouement se concrétise par la construction des premières stations comme Val d'Isère et Megève. Le pari fonctionne. Ski et tourisme se sont toujours développés ensemble, car ils se renforcent mutuellement. L'enjeu devient d'en démocratiser l'accès. Alors que les sports d'hiver étaient réservés à la bourgeoisie, les classes moyennes peuvent se l'offrir à partir du milieu du XXe siècle. Le volontarisme politique y aide. Le Front populaire crée des auberges de jeunesse en montagne. Le régime de Vichy fonde l'organisation Jeunesse et Montagne. Le gaullisme généralise les classes de neige, initiées en 1950. Derrière cette impulsion, une obsession. Valoriser l'or blanc. Le plan neige, série de politiques d'aménagement prises par l'État de 1964 à 1977, ambitionne d'apporter le tourisme de masse sur les cimes. L'État reproduit le modèle des grands ensembles sur les sommets. Quitte à bétonner la montagne, à l'image des stations de troisième génération comme Tignes et Avoriaz, mais l'élan est freiné par les chocs pétroliers et l'essoufflement du modèle de l'urbanisation effrénée. La loi Montagne de 1985 devient emblématique d'une nouvelle ère marquant l'esprit des stations de quatrième génération, Valfréjus, Valmorel, qui se veulent à taille humaine, en harmonie avec leur environnement. La loi Montagne 2, en 2016, marque à son tour un changement d'époque, la prise en compte du risque vital posé par le réchauffement climatique.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.